Wien.
It's morning edition from NPR News.
Let's see him stand in the house. I
am ready to go to Paris.
Pour vous, c'est bien de la radio.
France Inter, le 18-20.
Il y a une semaine, la vie des Ukrainiens a basculé et la guerre est revenue en Europe. Dans quelques minutes, une interview exclusive pour France Inter, celle du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. La capitulation n'est pas une option, Vladimir Poutine s'est trompé, nous avons gagné, dit-il. Le bruit du monde, c'est toujours ses récits à la première personne que recueille à distance chaque jour Caroline Gillet. Ce soir, nous serons à Kharkiv, dans un abri pour échapper aux bombes. Le bruit du reste du monde, c'est sous les radars. Fabien Fourel nous emmènera au Sri Lanka. Un pays au bord de la faillite où le carburant et l'électricité deviennent un luxe. Ou encore en Irak où la communauté juive lance un appel aux Nations Unies pour sauver la synagogue de Bagdad. À 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Angélique Bouin nous racontera les coulisses de cette semaine où l'Europe a changé de paradigme et écrit une page de son histoire. À 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four. La mort des soldats russes est un enjeu majeur de ce conflit. Le monde est vaste et on n'a pas fini d'en faire le tour.
Christelle Robière. Un jour dans le monde.
Il est l'un des personnages clés de la guerre en Ukraine, au cœur du pouvoir et au plus près du président Volodymyr Zelensky. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien nous a accordé une interview exclusive alors que s'ouvre de nouveau pour parler avec les autorités russes. Bonsoir Dmytro Kuleba.
Hello.
D'abord une question toute simple, monsieur Kuleba. Au bout d'une semaine de guerre, comment allez-vous?
I am alive and kicking.
Je suis vivant, comme tous les Ukrainiens, pour l'instant. La plupart d'entre eux, en tout cas.
Votre président, Volodymyr Zelensky, s'est mué en quelques jours en chef de guerre. Il est devenu une icône mondiale. Emmanuel Macron dit de lui qu'il est le visage de l'honneur, de la liberté, de la bravoure. Comment le voyez-vous?
Le président Macron a absolument raison. Le président Zelensky a uni le peuple ukrainien autour de lui. Et pour la première fois de notre histoire, le président de l'Ukraine a le soutien de 91% de la population.
Et
vous savez, l'Ukraine est un pays démocratique, donc c'est vraiment, ce sont des données objectives.
Quelle est sa vie aujourd'hui?
Il est à Kiev avec le peuple de l'Ukraine. Je ne peux pas vous dire exactement où il se trouve pour des raisons de sécurité, mais il vit la vie d'un soldat. Il commande la défense de l'Ukraine.
Il
passe beaucoup d'appels téléphoniques avec le dirigeant du monde entier qui se coalise pour lutter contre la guerre.
Il sait qu'il est la cible numéro un de Vladimir Poutine. Ça veut dire qu'il prend 1000 précautions pour sa vie, j'imagine.
Oui, il en est parfaitement conscient. Et nous comprenons aussi que le but de Poutine
est
de décapiter le gouvernement ukrainien. Donc tout le leadership de l'Ukraine est menacé. C'est une cible. Le président Zelensky est absolument la cible numéro un.
Ça veut dire que vous aussi, vous êtes une cible, M. Kuleba?
Oui,
bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle je dois m'en tenir à des mesures de sécurité pour m'assurer que nous pouvons continuer notre lutte en tant que gouvernement légitime et en tant que ministre des Affaires étrangères. Je suis une des trois personnes dans le pays qui peut parler au nom du pays avec le président et le premier ministre. Donc, tout simplement pour cette raison, je suis une cible.
Et vous ne pouvez pas nous dire non plus où vous vous trouvez en ce moment, bien sûr.
Je suis en Ukraine, mais je ne suis pas à Kiev pour des raisons de sécurité.
Monsieur Kuleba, de nouvelles négociations de paix s'ouvrent au Bélarus, près de la frontière avec la Pologne. La Russie se dit prête à négocier un cessez-le-feu. Et vous?
Nous sommes prêts à négocier un cessez-le-feu. Le problème, c'est que chaque fois que la Russie annonce être prête à négocier un cessez-le-feu, ses forces armées intensifient le bombardement de nos villes pacifiques et intensifient aussi leur offensive sur le terrain. Nous voulons voir d'abord si leurs mots sont en accord avec ce qu'ils font.
Quelles sont les lignes rouges sur lesquelles vous ne transigerez pas ?
L'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Russie doit retirer ses forces de l'Ukraine.
Et
nous pouvons discuter du reste, le mettre à l'ordre du jour au cours des négociations.
Une capitulation est-elle envisageable pour faire cesser les bombardements de votre part ?
Non, not an option that
ce n'est pas une option que l'Ukraine prend en compte.
Est-ce que vous pensez que les négociations d'aujourd'hui ont vraiment une chance d'aboutir ou que c'est juste le début de l'amorce d'autres négociations, que c'est encore trop tôt ?
Difficile à dire à ce point parce que, en tant que diplomate, je veux que les négociations réussissent, mais il faut que les négociations soient tenues de bonne foi, et la bonne foi exclut les ultimatums.
Avez-vous l'impression d'avoir déjà remporté une victoire contre Vladimir Poutine ? Il pensait qu'une offensive éclair lui permettrait de renverser votre président pour y installer un homme à lui, et ça ne s'est pas du tout passé comme il l'avait prévu, bien sûr.
Les calculs de Poutine à la veille de la guerre étaient basés sur la prémisse que la nation ukrainienne n'existait pas, que l'armée ukrainienne n'était pas prête à se battre et que le leadership ukrainien était faible et que l'Occident abandonnerait l'Ukraine. Le président Poutine s'est trompé sur tous ces points-là et donc nous avons déjà gagné. Mais il faut préserver notre pays de l'agression des forces russes pour pouvoir atteindre une paix durable pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour le monde.
Avec la forte résistance de la population de votre pays, est-ce que, Monsieur Kouleba, vous pensez que l'Ukraine peut devenir ce qu'a été l'Afghanistan pour la Russie il y a 30 ans ?
Ce qui se passe en Ukraine n'est pas une guerre entre l'État russe et l'État ukrainien. C'est une guerre des Russes contre le peuple ukrainien, contre la population. Nos civils s'opposent à l'ennemi de façon pacifique, souvent, en ne permettant pas aux chars de rentrer dans les villages, et les civils aussi prennent leurs armes, prennent des armes, s'arment pour défendre leur pays. C'est une guerre du peuple. Je n'aime pas la comparaison avec l'Afghanistan et l'Ukraine. Nous sommes deux pays totalement différents. Nous espérons que la guerre d'agression et injuste initiée par la Russie contre l'Ukraine ouvrira les yeux au peuple russe qui trouvera finalement le courage et la force de s'opposer aux décisions folles de sa direction, parce que c'est le peuple russe qui va souffrir le plus de cette guerre. Leurs enfants, leurs frères, leurs pères seront tués dans cette guerre. Leur économie sera détruite en raison des sanctions. Poutine est un homme riche, lui ne souffrira pas. Mais les gens ordinaires, les Russes ordinaires, oui, eux vont souffrir.
Il y a un exode massif dans votre pays. Est-ce que vous allez ouvrir des corridors humanitaires pour la population ?
Nous sommes prêts à ouvrir des corridors humanitaires. Mais c'est la Fédération de Russie qui n'est pas prête à le faire. Ils font des manipulations, ils disent qu'ils sont prêts, mais on ne voit pas comment leurs paroles sont en accord avec ce qu'ils font. Nous ne voulons pas, nous n'aimons pas la guerre, mais nous voulons minimiser les victimes, et ces derniers jours, nous avons fait de notre mieux pour nous assurer qu'il y ait trois passages à partir du territoire ukrainien vers les pays voisins pour les civils. Mais le problème le plus urgent pour l'instant, c'est que la Russie cesse de bombarder nos grandes villes, grandes et petites, pour que les corridors humanitaires puissent être mis en place et que les gens, ceux qui le désirent, puissent quitter la zone de guerre.
Est-ce que les armes, le matériel promis par l'Europe est en train d'arriver en Ukraine en ce moment ?
Yes, they are, and
oui.
We deeply appreciate
nous the
support
sommes,
that we receive. It is obvious that,
nous remercions beaucoup l'Occident pour ces équipements qui sont ici. Et c'est bien, c'est une bonne chose que l'Occident comprenne que c'est aussi leur guerre, parce que le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine, mais l'Europe en tant que telle, et en soutenant l'Ukraine dans sa lutte, c'est s'assurer également la sécurité des nations européennes.
Une dernière question, Monsieur Kouleba. Que voulez-vous dire à Emmanuel Macron, qui préside en ce moment le Conseil de l'Union européenne ?
Nous comptons sur la direction française et la pression sur la Russie devrait être accrue jusqu'à ce que la guerre prenne fin, jusqu'à ce que la Russie se retire
et
dédommage l'Ukraine pour toutes les souffrances et les dommages causés. Jusqu'à ce que cela ne soit pas fait, nous comptons sur la direction française, le leadership français, pour mobiliser l'Europe et les autres nations en le soutien de l'Ukraine et en accroissant la pression des sanctions contre la Russie.
Est-ce que justement les sanctions contre la Russie, et pas seulement les sanctions européennes, seront à votre avis assez fortes pour faire reculer Vladimir Poutine ?
Si on continue d'imposer des sanctions sur la Russie et que l'on prive la Russie de passer par les trous de la raquette, oui, on réussira à restaurer la paix.
Merci infiniment, Monsieur Kouleba, d'avoir répondu aux questions de France Inter. Merci beaucoup.
Thank you, bye-bye.
Cette interview a été enregistrée à la mi-journée. On remercie Stéphanie Boutonnat et aussi Michel Zlotowski pour la traduction. Au bout d'une semaine de guerre, nous avons eu envie aussi de donner la parole à l'un de nos envoyés spéciaux pour comprendre à quel point ce pays a basculé en quelques jours. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir.
Vous êtes le spécialiste défense ici à France Inter. Vous venez de passer plus de 15 jours à Kiev. Vous êtes actuellement entre la Moldavie et la Roumanie. Alors on a envie de partager avec vous un peu ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti. D'abord, qu'est-ce qui vous a le plus frappé ?
Alors ce qui m'a le plus frappé, je crois que la chose la plus frappante depuis le début de ce conflit, c'est l'état de l'armée russe. Son impréparation, son amateurisme parfois, c'était assez étonnant de constater qu'il s'agisse de logistique, qu'il s'agisse de mouvements tactiques, qu'il s'agisse tout simplement même d'emploi d'armement, qu'il s'agisse de communication entre les unités russes. On avait vraiment pas l'impression d'avoir affaire à une armée professionnelle, mais à un conglomérat de choses complètement disparates, diverses, qui ne fonctionnaient pas bien ensemble. Et ça a donné l'occasion à l'armée ukrainienne, qui, sur le papier, est beaucoup moins puissante, évidemment, que l'armée de la Fédération de Russie, de contrer la plupart des offensives, en tout cas de les freiner, et ce, sur tous les fronts. Et il y en a trois principaux à l'échelle d'un pays en entier. C'est assez impressionnant, effectivement, de constater cet amateurisme de l'armée russe qui n'a visiblement pas du tout préparé cette offensive.
Éric, vous étiez à Kiev avant le début de la guerre. Comment avez-vous vu changer cette capitale au fil des derniers jours ? Racontez-nous.
Alors, tout simplement, jusqu'à l'offensive du 24, la capitale ukrainienne était parfaitement normale. Le 23 au soir, on pouvait tout à fait dîner dans un restaurant où vous aviez des groupes de gens qui chantaient joyeux anniversaire parce que c'était l'anniversaire de quelqu'un.
Oui.
Ce genre d'activité complètement normale dans une capitale européenne, relativement animée, etc. Évidemment, il y avait une certaine angoisse, une certaine peur du lendemain chez tout le monde. Enfin, on n'était pas totalement tranquille.
Mais il y avait une certaine incrédulité quand même.
Pas vraiment une incrédulité, et je crois que... ce qui a surpris tout le monde, je pense, c'est l'ampleur de l'offensive, c'est-à-dire sur tous les fronts à la fois, la ville de Kiev elle-même directement visée, et ça, c'est clair que la population ne s'y attendait pas, ou plutôt ne voulait pas y croire. Les préparatifs russes avaient été parfaitement repérés, l'armée ukrainienne le savait, j'avais pu discuter avec des généraux ukrainiens quelques au mois de janvier, un peu en longueur. Ils étaient parfaitement conscients du déploiement de forces tout autour du pays et de la, des possibilités que cela induisait en termes de bataille. Pour la population, on ne voulait pas vraiment y croire et on a basculé assez vite avec ces sirènes, ces appels, tout le monde aux abris, personne ne se rendant véritablement compte de ce que ça pouvait signifier. Les gens se sont précipités à Kiev, en tout cas dans le métro. Le métro est très très profondément, les lignes passent très très profondément sous la terre. Les métros sont à l'épreuve de n'importe quel bombardement sur la ville de Kiev. Les gens ont commencé à passer la nuit dans le métro et dans les premiers jours au moins, il n'y a pas eu de bombardement significatif sur la ville, mais juste, on va dire, dans la grande périphérie, à une vingtaine, 25 kilomètres du centre-ville, du centre de Kiev, dans une zone un peu périurbaine, on va dire.
Oui.
Et finalement, personne n'en a trop souffert de conséquences. C'est en train de changer. Les bombardements commencent à toucher la capitale dans son centre, tout simplement, avec ces bombardements relativement lourds, avec des tirs de missiles, donc qui peuvent faire en tout cas énormément de dégâts et qui sont extrêmement impressionnants. Il y a vraiment de quoi descendre dans le métro et y rester des heures.
J'aimerais qu'on prenne une minute ou deux, Eric, pour que vous nous parliez rapidement de votre travail de journaliste. D'abord, quelles précautions avez-vous dû prendre pour votre sécurité ?
Ah, c'est des précautions un petit peu de base. C'est-à-dire que tant que ça ne tire pas véritablement sur la ville, bon, on essaye de limiter un petit peu les déplacements, mais en même temps, sans trop non plus se fier à toutes les alertes. Des alertes et des coups de sirène, il y en avait pratiquement toutes les deux ou trois heures, et qui ne correspondaient pas à quelque chose de précis. Donc, au bout d'un moment, évidemment, on fait pas avec, on fait sans.
Et oui, bien sûr. J'ai une autre question et on va terminer là-dessus. Pour vérifier les informations, comment ça se passe ?
Alors, ça se passe de la manière la plus simple qui soit. Tant qu'on a de l'électricité et de l'Internet, on a une communauté absolument fantastique de gens qui postent des images, des vidéos, des textes, qui géolocalisent les endroits où se passent les actions, qui est fantastique, qui est sans commune mesure avec les autres conflits que j'ai pu couvrir, que j'ai pu voir il y a plusieurs années. Et là, vous avez en quelques dizaines de minutes, parfois quelques heures, on va dire, plusieurs angles de prise de vue. Tout le monde a une caméra sur son téléphone portable, tout le monde filme, tout le monde prend des photos et les poste. Et il y a des gens qui, dont c'est un petit peu la manie, de regrouper tout ça et d'en faire et de le cartographier, par exemple, et ce qui fait qu'on a des manières de vérifier si par exemple un bombardement nous est on est averti d'un bombardement, on peut être certain qu'on va avoir 3, 4, 5 sources en images et quelqu'un qui va géolocaliser ça très exactement dans le quart d'heure, ce que évidemment il était totalement impossible à faire il y a encore quelques années. Et ça, c'est une ressource fantastique.
C'est une guerre du 21e siècle. Merci beaucoup, Eric, d'avoir pris le temps de témoigner. Et bonne route, surtout, et prenez soin de vous. Merci beaucoup.
Le 18-20, Christelle Robière, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde et toujours ce fracas en Ukraine avec des récits à la première personne. Nous irons notamment à Kharkiv, soumis à de forts bombardements, retrouver un couple terré dans un abri. La troupe habituelle qui nous emmène jusqu'à 19h sous les radars, Fabien Fourel.
Avec une fleur unique au monde, au cœur d'une bataille en Espagne, elle pourrait bien disparaître.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes ? Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir, nous irons dans les coulisses de cette semaine de diplomatie assez folle à Bruxelles où le visage de l'Union européenne a profondément changé.
Le monde d'après avec vous Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Jean-Marc. À tous, on va prolonger ce que vous disiez avec votre invité le ministre ukrainien des Affaires étrangères pour mesurer combien la mort de soldats russes peut devenir un enjeu majeur du conflit vu son impact potentiel sur la société à Moscou.
A tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini, on fait un petit détour par Atlanta, Cat Power, Bad Religion.
Keep the needle running. Take every street if you wanna.
Le bruit du monde, c'est toujours celui de la guerre ce soir. Bonsoir Caroline Gillet.
Bonsoir Christelle.
Vous nous emmenez en Ukraine. Écoutez ceux dont la vie a basculé depuis jeudi dernier. Vous leur avez proposé de s'enregistrer avec leur téléphone portable, d'envoyer le récit de leur quotidien. On commence dans un abri, quelque part à Kharkiv, la ville qui a été lourdement bombardée ces derniers jours.
Oui, je vous présente Alexis, chef comptable, enfermé avec sa femme dans un abri depuis jeudi dernier déjà. On entend la leçon qu'il m'a envoyée de cet abri. Je lui ai demandé de raconter la vie dans ces espaces. Tous ses amis, dit-il, sont répartis dans différents sous-sols à travers la ville, mais les plus âgés, souvent, refusent de quitter leurs appartements.
Ici, à l'abri, on est comme des harengs dans une boîte. Au total, on est 400-500 personnes, mais on s'est lié d'amitié avec les jeunes gens, avec les petits-enfants. Tous, on se partage les difficultés.
On se sent ici vraiment en sécurité. Il y avait des volontaires qui nous approvisionnent en nourriture.
Il y a un système pour charger les téléphones et les gadgets. Quand la bouilloire est branchée, il faut débrancher les gadgets personnels. Mais quand même, on a toujours la possibilité de charger nos téléphones. Ma femme a été totalement paralysée par la peur des bombardements le 25 février. L'usine d'aviation d'à côté a été très sévèrement bombardée. Maintenant, elle va un peu mieux et elle est en train de prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner d'aujourd'hui, c'est le fromage cru au raisin, très savoureux, avec un peu de crème fraîche.
Ma femme sort très rarement. Moi, je sors de temps en temps pour rendre visite à ses parents malades qui habitent le centre-ville. Pour le moment, je suis chez les parents de ma femme. J'ai réussi à me laver la tête, à me brosser les dents et faire quelques efforts pour maintenir l'hygiène personnelle au niveau minimum.
Je suis sorti, tout était calme. Maintenant, il y a une demi-heure, on a entendu la sirène et on a reçu les SMS d'alarme du service des situations extraordinaires. les gens plus âgés restent chez eux. Bien sûr qu'ils ont peur, mais ils me disent qu'ils n'ont pas peur.
Alors les beaux-parents d'Alexis vont bien suite à cette alarme dont on parlait. Maintenant on va aller plus à l'ouest, on a reçu des notes vocales de la part de Daria Bibikova. Elle est traductrice et interprète à Kiev. Elle s'est réfugiée à Khmelnytskyi, une ville qui est côté Moldave, avec ses deux filles et son mari. Ils se sont installés dans l'appartement de la belle-mère d'un neveu. Cette dame était partie voir ses petits-enfants en Pologne, elle n'ose pas revenir. Et elle a proposé donc qu'ils s'installent chez elle. Ils ne savent pas combien de temps ils seront là et ils tentent de retrouver une vie un peu quotidienne pour les filles.
Готуешь борщ?
Да.
Et bon, en effet, mon mari prépare le борщ. Il est en train de râper les carottes. Mon mari dit qu'il n'aime pas ce four ici parce qu'il est pas, il est beaucoup moins pratique que celui que nous avions chez nous. Mais... Enfin, encore une fois, on n'a pas à nous plaindre. Oui, là, mes filles sont en train de regarder les dessins animés et mon mari l'appelle son neveu pour prendre des nouvelles de sa mère.
Оля дивитиметься, то якщо вона гарно розмальовуватиме.
І дасть попрацювати батькам.
Я порозмальовую.
On a surtout parlé à notre fille aînée parce qu'on veut qu'elle fasse des exercices, des mathématiques. Elle n'a pas du tout envie. Voilà, déjà, elle ne va pas à l'école. Ensuite, mon mari, il a dit qu'il y avait des cours aussi. Des enseignants ukrainiens se sont organisés pour faire des cours en ligne. Il a dit que cette guerre, elle peut être longue, comme la guerre de 100 ans, de la guerre de... entre Israël et la Palestine. Donc, mais la fille, elle a donné tous ses arguments pour ne pas faire des mathématiques. Elle préfère faire une chaîne YouTube, ce que nous, en tant qu'adultes, on n'apprécie pas trop.
Merci Caroline, merci à Daria et Alexis pour ces notes vocales. On prendra de leurs nouvelles évidemment régulièrement. Caroline, on vous retrouve ici à la même heure, au même endroit, lundi prochain.
C'est ça, merci Christelle.
Sous les radars nous emmène ce soir au Sri Lanka qui s'enfonce dans une crise inédite.
Les attentats islamistes de Pâques 2019, la pandémie de Covid ensuite, le pays est privé de touristes, coupé de sa principale manne budgétaire. Depuis, c'est un cercle vicieux. Le Fonds monétaire international sommet aujourd'hui le Sri Lanka d'augmenter les impôts et de dévaluer sa monnaie, car la faillite guette à tel point qu'il se trouve confronté à une pénurie de carburant. Faute de devises, il peine à financer les importations essentielles pour ses 22 millions d'habitants, avec des scènes proprement hallucinantes, comme ici, des files de voitures longues de dizaines de kilomètres pour accéder aux stations essence, les rares fois où elles sont approvisionnées. Cet homme, par exemple, est un conducteur de tuk-tuk et il témoigne : je suis venu ici à 10h du matin pour me mettre dans la file d'attente et ce n'est que maintenant que la station-service a été réapprovisionnée. 6h d'attente pour remplir mon réservoir. Pourquoi le président ne peut-il pas prendre en compte la souffrance du peuple, se demande ce Sri Lankais de 50 ans. L'île dépend totalement des importations pour le pétrole. Les bus sont aussi touchés. Seulement un quart de la flotte circulait hier, ce qui alourdit la situation. Bon nombre de Sri Lankais ne peuvent en effet plus se rendre au travail sans les transports. Et le gouvernement demande donc aux stations-service de rationner désormais et aux institutions publiques d'éteindre les climatiseurs pour économiser de l'énergie.
Direction à présent Bagdad, où la communauté juive d'Irak lance un appel aux Nations Unies.
Aidez-nous à sauver la synagogue de Bagdad. Cet édifice religieux, témoin des époques, tombe aujourd'hui en ruine. Rien ne distingue le bâtiment en briques défraîchies, si ce n'est la discrète inscription en hébreu surmontant l'entrée. Le revêtement bleu ciel des murs s'effrite, les marches menant au tabernacle en bois se disloquent. Pourquoi ? Parce que la communauté juive d'Irak, jadis l'une des plus grandes du Moyen-Orient, s'est réduite comme peau de chagrin. Il ne reste qu'une poignée de juifs d'Irak qui regardent impuissants s'effondrer leur patrimoine dans un pays déchiré par des décennies de conflits. Nombre de ces bâtiments ont été endommagés en raison du contrôle exercé sur eux par les groupes de l'État islamique, dit le responsable des antiquités de Bagdad. Les juifs faisaient partie des premiers habitants. C'est pourquoi ces bâtiments sont des marqueurs de l'histoire. Seule lueur d'espoir, l'Alliance internationale
internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit se dit disponible pour soutenir un potentiel projet de rénovation. Alors la communauté interpelle l'ONU pour sauver ce patrimoine. Elle donne l'exemple de la synagogue d'Ézéchiel, sauvée grâce au consulat américain qui a annoncé le mois dernier un financement de 500 000 dollars.
Et puis Fabien, une fleur unique au monde, menacée par l'installation de 3 parcs éoliens.
Elle pousse entre les roches de la Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Sa couleur jaune réfléchit la lumière du soleil au sol. La Santorea Ultreae est en danger, selon les collectifs écolos. Découverte pour la première fois en 1987, elle ne pousse que dans cette région du monde. Oui, mais voilà, le Parti populaire espagnol, le PP, ancré à droite, a autorisé en urgence, il y a quelques jours, la construction de 3 parcs éoliens dans cette zone. Sur les télés locales, les opposants se mobilisent. Le bruit des parcs éoliens est très particulier, dit cet homme. Beaucoup de gens le décrivent comme s'il s'agissait d'un aéroport avec un bruit continu. Ce n'est pas très élevé, mais c'est très ennuyeux. Avant d'ajouter, si c'est ennuyeux pour nos oreilles, ça l'est aussi pour les espèces habituées des plaines de Galice. Et s'il n'y a plus d'espèces, et notamment d'insectes, la fleur pourrait disparaître. Sans compter les travaux qui devraient contraindre à arracher 6800 spécimens. L'affaire est portée en justice car la fleur de Galice est catégorisée en danger d'extinction depuis 2007. De son côté, l'exécutif propose la conservation et la récupération de l'espèce avec un projet de reproduction in vitro. Pas de quoi convaincre, vous l'imaginez, les écolos qui poursuivent leur combat sur le terrain juridique. Don Quichotte se battait contre des moulins à vent. Au 21e siècle, Christelle, des Espagnols se battent contre des éoliennes.
Bien vu, merci Fabien.
France Inter.
Je suis venu vous parler de
The European Union.
Général. Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Angélique Bouin, vous êtes en direct de Bruxelles et vous avez donc suivi heure par heure depuis la semaine dernière le changement de paradigme de cette Europe.
Et oui, avec ce sentiment très particulier de voir une page d'histoire se tourner. Mes interlocuteurs habituels ici, diplomates, fonctionnaires, eurodéputés, tous ne cessent de dire que non seulement l'Union change de visage, que l'unité dont elle fait preuve est totalement inédite, mais aussi que cette crise va bousculer leur agenda dans le domaine énergétique, de la défense et même de la politique agricole.
Et l'un des moments clés, Angélique, ça a été le sommet des chefs d'État et de gouvernement jeudi dernier.
Oui, convoqué la veille de l'offensive russe par le président du Conseil Charles Michel, qui pressentait alors qu'il devenait urgent de réunir la famille pour se préparer au pire. Réunion qui s'est finalement tenue le soir même de cette attaque. Un sommet où l'ambiance était très particulière, dit un diplomate, avec cette intervention en direct de son bunker du président ukrainien. Il est alors entré militaire et déclare « C'est peut-être la dernière fois que vous me voyez » vivant. Il y a eu, dit-on, un silence stupéfait. Et puis ensuite, ce tour de table avec une scène marquante, dit une autre source, alors que certains chefs d'État de gouvernement disaient redouter sur le sol européen un conflit jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, l'un des dirigeants présents les corrige et raconte sa propre expérience. Le nom n'a pas fuité, mais sans doute s'agissait-il d'un dirigeant d'un pays de l'ex-Yougoslavie. Deux moments très forts et un sommet qui change de nature. Alors que les 27 avaient déjà validé à ce moment-là et dans une unité rare, sans en changer une virgule, le train de sanctions très costaud présenté par la Commission, eh bien, les dirigeants ont commencé à douter et à se dire que ce ne sera sans doute pas assez. Les 5 heures suivantes ont été une sorte de foire aux idées, résume un fonctionnaire européen. Comment cibler Poutine et Lavrov? Quelle banque des Swiftés? C'est là aussi que l'idée de paralyser en pratique en partie, la Banque centrale russe a été mise sur la table. Les 27 ont alors mandaté la Commission pour plancher sur tout cela dans le plus grand secret et le tenir jusqu'à vendredi soir et la fermeture des marchés.
Une unité sans faille des 27, donc Angélique. Même Viktor Orban n'a pas levé un doigt pour son ami Poutine.
Oui, c'est ce qui est notable dans toutes les décisions prises ici. Il y a des divergences de vues lors des différents débats, mais il y a aussi une sorte d'obsession à trouver très vite des compromis pour garder un front uni face à Vladimir Poutine qui a misé sur cette division. Il y a aussi ici une peur palpable dans les ambassades sur ce qui peut arriver. C'est comme ça qu'on a vu en quelques heures l'Allemagne lâcher Nord Stream 2, ce qui était impensable. Il y a ensuite, et ce n'est pas négligeable non plus, de nouveaux process décisionnels ici à Bruxelles, beaucoup plus efficaces qu'avant. C'est un héritage du Covid. Oui. Le COREPER, la réunion des représentants permanents des 27 auprès de l'Union, c'est les 27 ambassadeurs. Ce COREPER, eh bien, il a pris du pouvoir pendant la pandémie pour agir plus vite. Cette instance, en ce moment, elle se réunit 2 à 3 fois par jour pour acter des décisions, sous l'impulsion de l'ambassadeur français Philippe Léglise-Costa, qui dirige les débats car c'est la présidence française. Or, c'est un diplomate chevronné, très respecté ici, rompu au négociations difficiles. Sachez que, comme ses collègues, hein, il n'a sans doute pas mis un orteil dans son lit, au moins entre jeudi et lundi.
On imagine. Est-ce à dire, Angélique, qu'une fois la crise passée, tout aura changé, que les 27 parleront vraiment d'une seule voix?
Alors non, hein, bien sûr, faudra pas être eurobéa, parce que cette crise, elle peut aussi rebattre les cartes, hein, sur certains engagements pris. La Pologne ou la Hongrie, à qui, rappelons-le, on a tordu le bras pour s'engager vers la neutralité carbone en 2050 avec des mesures difficiles à prendre, eh bien, il pourrait bien nous dire très vite que la vie est déjà assez compliquée comme cela pour ne pas en rajouter, s'inquiète un centriste du Parlement. Et puis sur les valeurs ou l'état de droit, hein, il reste du chemin à parcourir. Les négociations suivent leur cours. Ici, hein, et la Pologne et la Hongrie continuent, nous dit-on, de bloquer des textes législatifs importants. Ils sont en première ligne face à la Russie, défendent haut et fort les valeurs européennes. Mais il faudrait que ça s'applique aussi sur la lutte, par exemple, contre la haine en ligne et la défense des droits LGBT, s'agace un diplomate proche des négociations.
Merci beaucoup, Angélique, en direct de Bruxelles.
Christelle Rebière, le 18-20.
Le monde d'après, Jean-Marc Four, la guerre en Ukraine est donc entrée dans sa deuxième semaine avec toujours une situation dramatique à Kharkiv au nord, Mariupol au sud. Malgré une nouvelle séance de négociations entre Russes et Ukrainiens à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, ce soir, Jean-Marc, vous vous demandez ce qui pourrait faire bouger la société russe et par effet en chaîne Vladimir Poutine. C'est votre monde d'après.
Bon, à première vue, hein, c'est chape de plomb. Hein, impossible de miser sur un soulèvement de la société russe. La peur domine, la censure règne à Moscou. Les médias n'ont même pas le droit de prononcer le mot « guerre », on le sait, seulement celui d'opération spéciale. Et les médias indépendants, la radio Écho de Moscou, la télévision Dodge, s'autodissolvent aujourd'hui en estimant ne plus pouvoir travailler. Vladimir Poutine flatte le nationalisme en brandissant la menace occidentale, avec l'appui du patriarche de l'église orthodoxe. Bref, verrouillage maximum de la société. Mais, quand on y regarde de plus près, il y a des fissures dans l'édifice. D'abord, il y a des manifestations quotidiennes de protestation contre la guerre, notamment à Moscou et Saint-Pétersbourg. Alors, quelques dizaines, quelques centaines de courageux, de très courageux. Ça peut paraître microscopique, mais dans le contexte de chape de plomb, c'est déjà beaucoup. Il y a d'ailleurs eu de multiples arrestations. Ensuite, il y a un mouvement sur les réseaux sociaux russes via le slogan « Non à la guerre ». Et puis, il y a des oligarques proches du pouvoir qui manifestent leur désaccord avec cette invasion. Andrei Yakounine, Oleg Tinkov, Roman Abramovitch, qui cède son club de Chelsea à Londres. Autant d'hommes, de banquiers, de manias, des matières premières qui appellent à un arrêt des combats.
Oui, mais quand même, tout ça paraît marginal et bien loin de pouvoir faire basculer l'opinion publique russe quand même.
Oui, et il y a un autre paramètre qui est peut-être plus important à moyen terme, c'est le nombre de morts dans les rangs de l'armée russe. Pour comprendre, il faut faire un flashback, raconter une page d'histoire. En décembre 1989, donc il y a plus de 30 ans, l'Union soviétique se retire d'Afghanistan après quasiment 10 années de guerre. Plus de 110 000 soldats se replient après avoir échoué à mettre un terme à la guérilla afghane. Plus d'un million d'Afghans ont été tués, plus de 15 000 soldats russes. C'est un échec militaire pour Moscou. Et ce repli, on l'apprendra après, s'expliquait en grande partie par la colère des mères, des femmes, des sœurs des soldats russes morts au combat. Un déluge de courriers envoyés au comité central du Parti communiste au pouvoir à l'époque, à tel point aussi que sur le terrain en Afghanistan, les officiers russes n'arrivaient plus à convaincre les soldats de continuer à combattre. Eh bien, on peut assister à une répétition de l'histoire dans une formule accélérée. Les forces engagées par Moscou en Ukraine, 150 000 hommes, sont d'une ampleur assez comparable à l'aventure afghane. La guérilla urbaine des Ukrainiens entrés en résistance pourrait durer des mois. Et le bilan côté russe est déjà lourd. 9 000 morts russes, si l'on en croit Kiev. Bon, Moscou avance évidemment un chiffre beaucoup plus bas. 500 victimes. Mais même 500, c'est déjà très lourd en une semaine. En Afghanistan, à l'époque, c'était plutôt 30 morts russes par semaine. Si ce chiffre doit augmenter à ce rythme, la colère naîtra mécaniquement au sein des familles de soldats, a fortiori pour une guerre où, rappelons-le, on tire sur des hommes, des Ukrainiens qui sont parfois des cousins, au sens premier du terme.
Oui, enfin là, vous faites quand même un peu de politique fiction. On n'y est pas,
Je vous l'accorde, ça peut prendre du temps. Mais ce que je peux vous certifier, c'est que ce scénario est envisagé par les Occidentaux. Il fait partie du pari occidental. Miser sur un tribut trop lourd à payer en nombre de morts pour l'armée russe et donc une montée en puissance de la grogne parmi les mères de soldats, y compris dans les campagnes, vous savez, pour prendre un cliché, c'est babouchka fidèles au régime. D'ailleurs, on peut mettre ce scénario un peu en écho aux propos tenus hier soir par Emmanuel Macron. Le président français a lourdement insisté sur la différence entre Poutine d'un côté et montré du doigt comme le responsable de la guerre et la Russie, le peuple russe de l'autre côté, contre lesquels nous n'avons rien, nous ne sommes pas en guerre. C'est peut-être une façon d'inciter les élites du pays, même l'entourage de Poutine, à écouter la réaction de la société russe, à ne pas défier leur propre peuple. Alors reste évidemment un obstacle, et ça, il est de taille, c'est Vladimir Poutine lui-même. Et c'est là où la comparaison avec le retrait d'Afghanistan s'arrête. À l'époque, en 1989, l'homme qui accepta la défaite, qui présida au repli d'Afghanistan, c'était qui ? Mikhail Gorbatchev, l'homme de la glasnost, de la perestroïka, de la fin de l'Empire soviétique. Poutine, lui, c'est tout l'inverse. Il veut précisément reconstruire cet empire, même au prix de milliers et de milliers de cercueils dans les rangs de son armée.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Merci, vous restez avec nous pour le téléphone sonne. On fera le point sur cette guerre dans un instant. Pour nous, la suite, c'est la deuxième grande édition de ce 18-20. Merci de passer ce début de soirée avec nous. Nous sommes ensemble pour une heure encore.